tutu. Ay, ay, ay. Ay, ay,
la rouscaille.
Rouscailler, c'est-à-dire parler, taper l'embrouille, faire l'amour. Parce que le silence n'est pas la forme de communication appropriée.
Bonjour, vous êtes bien sur La Rouscaille, 106.3 sur FPP. Nous sommes aujourd'hui mercredi 14 février 2018. Bonjour Pierre Michy.
Bonjour à toi Ogier.
Donc aujourd'hui un invité extraordinaire, hein, un compositeur d'un type de musique particulier.
Les gens appellent ça particulier, moi je dirais une musique permanente.
Merci. Donc en technique, hein, un petit bonjour à la technique qui gère cette émission. Donc on a Monsieur Président, Anna, Marianne et Manu Payet en direct. Alors Pierre Michy, rebonjour.
Heureux.
Donc aujourd'hui, un type de musique particulier dans cette émission. Ce qu'on appelle communément la musique concrète. Est-ce que je me trompe ?
Vous ne vous trompez pas. On appelle ça la musique concrète, la musique qui donc se sert de sons enregistrés qu'on modifie, de sons qui viennent d'un espace réel et concret. Moi, par exemple, je vais aller plus loin. Je dirais musique performative, musique du présent, musique du réel maintenant.
Vous vous inscrivez dans une certaine histoire de la musique concrète dont on va parler peut-être tout à l'heure. Avant, je vous prie de m'excuser, mais je voudrais passer un petit extrait d'un précurseur de cette musique de bruit ou concrète. C'est René Goscinny, le fameux auteur de bande dessinée, et qui nous parle un petit peu des bruits.
Nous ne sommes pas entourés que de sons mélodieux dans la vie. Nombreux sont les bruits désagréables qui nous assaillent et qui jouent avec nos nerfs de nuit comme de jour. Écoutez plutôt. Commençons par les bruits nocturnes. La nuit, le moindre bruit prend une importance énorme. Témoin, ce robinet mal fermé qui s'évertue à empêcher M. Bouchard de trouver le sommeil.
Un petit extrait sonore qu'on peut retrouver sur le site de l'INA.
Magnifique. Magnifique. Il dit en peu de mots ce que je pourrais dire en plein. Effectivement, la musique nous environne. On n'a pas besoin de la créer, de faire de la grande musique. Par exemple, je vous fais un exemple très concret. Ici, j'ai mon stylo. Effectivement, comme dirait René Goscinny de son nom, nous pouvons nous arrêter à ce simple bruit, comme un bruit, donc quelque chose qui dérange. Eh bien, finalement, ce bruit devient musique à partir du moment où il est ordonné et pensé dans son entier avec d'autres, accompagné d'autres sons qu'on pourrait composer qui feraient une musique concrète.
Voilà, donc ça, c'est un instrument très, très discret. C'est une fourchette, c'est ça ?
Oui, c'est une fourchette à manche long. La pique-assiette, dirions-nous.
Parce que certains considèrent même ça comme un art. Certains appellent ça l'art acousmatique, j'ai vu dans mes recherches.
Exactement, l'art acousmatique.
C'est un genre musical, en fait, il me semble, oui. qui est permis par des techniques électro-acoustiques de l'enregistrement microphonique à l'invention de sons. Voilà.
Mais exactement ça, c'est juste qu'à partir du moment, en fait, l'art acousmatique, l'acousmatique est à la musique ce que le cinéma est au théâtre, c'est-à-dire que c'est l'art d'enregistrer et de modifier des sons qui ne sont pas des sons abstraits, c'est-à-dire que ça a changé la manière de penser la musique. On peut partir de bruit, d'objets concrets, d'un son qui pourrait devenir la matière principale d'un morceau, parce qu'on a la capacité d'enregistrer.
D'accord.
Et de modifier.
Donc ça, c'est permis éventuellement, enfin, sûrement par l'évolution technique
exactement.
D'enregistrement au XXe siècle,
oui.
Seconde moitié du XXe siècle.
Exactement. Je...
En,
Je pense notamment à notre ami Pierre Schaeffer qui a inventé ça quand même.
Pierre Schaeffer, donc c'est un des pionniers peut-être.
L'inventeur.
D'accord. Et j'avais vu François Bayle aussi.
Oui, dans les années 70, ça a été repris par François. Après, il y a Pierre Henry qui est encore vivant et qui a été l'homme qui a
popularisé.
Oui, non, oui, le plus popularisé. Oui, si vous assistez à des concerts de Pierre Henry, c'est concrètement de la musique concrète.
Mais quand j'ai travaillé l'émission, en fait, j'ai commencé à lire, à m'intéresser un petit peu à la théorie, et notamment un livre qui s'appelle « La musique concrète comme art des sons fixés », d'un auteur que vous connaissez bien, qui s'appelle Michel Chion.
Chion, oui. Ça, c'est Chion est à la musique concrète ce que comment dirait Georges Bataille est à l'érotisme. Hein, voilà. Donc Chion nous a, comme qui dirait, sauvé du néant. Voilà. Ouais, il a permis de devenir un art noble.
Aucun lien avec vous. Il n'y a pas de lien familial. Parce que Pierre Michi, Michel Chion, je me demande si.
Effectivement, on s'est souvent posé la question parce que nous nous ressemblons. Alors la radio ne permet pas d'attester ça, mais si vous googlisez Pierre Michi et Michel Chion, c'est vrai que longtemps on m'a. Je rigole parce que ça me rappelle quand j'étais petit, on me prenait toujours pour des jumeaux. Mais Michel et moi, nous sommes en aucun cas de la même famille. Voilà,
oui, parce que Pierre Michi, vous êtes franc. Excusez-moi, Pierre Michi.
Je vous en prie, je vous en prie.
On coupera peut-être. Vous êtes français, mais il me semble que vous êtes d'origine polonaise, m'a-t-on dit. Est-ce que vous avez changé votre nom pour mieux vous...
Alors, je vois ce que vous dites. Non, concrètement, j'aime ce mot, concrètement. Dans l'absolu, je dirais même, je suis français.
Grand-père polonais,
dans la mythologie familiale, je suis polonais parce qu'on aime ça en France, dire je suis de là, je viens de là. Mais finalement, aujourd'hui, concrètement, je suis français et nous sommes français, liés tous les deux. Je reconnais que la Pologne fait partie de mon ADN. Et, d'ailleurs, j'ai écrit un de mes premiers morceaux, c'était « Je vis dans les bois boissés ». C'est en référence à la forêt polonaise, voilà. Très intéressant, Roger, là, vous proposer.
Excusez-moi, pardon, je me permets de manger un peu. Alors, peut-être avant de nous présenter, est-ce que vous êtes venu avec vos instruments ? Je sais que d'habitude, vous travaillez surtout avec ordinateur et objets beaucoup plus techniques, mais j'avais quelques extraits de bruit quotidien que vous pourriez peut-être, ou que certains compositeurs de musique concrète utilisent. On pourrait peut-être écouter un extrait, s'il vous plaît, en technique. Voilà, Monsieur Pierre Michi.
Je mange, je goûte, je suis. Voilà, c'est...
Merci pour cette improvisation.
Voilà, c'est là où je disais tout à l'heure, je rejoins plus la musique performative, c'est que, effectivement, ce qu'on a entendu avant est très intéressant. Maintenant, avec la technologie, on peut faire plein de choses. Moi, j'ai voulu revenir à la source et... dire qu'on peut même tenter l'extrémité de la musique concrète, c'est de n'aller là qu'avec des sons qui n'échappent qui échappe à l'enregistrement. C'est-à-dire qu'on n'est que dans l'éphémère. Vous avez entendu une chose qui ne pourra pas se reproduire. Je voudrais refaire la même chose, ce serait impossible.
Alors, peut-être qu'on pourrait écouter un artiste. Je ne sais pas si vous êtes déjà rencontré ou travaillez ensemble. Il s'appelle Zixidi. Donc,
Oui.
Ça vous dit quelque chose ?
Volontiers, écoutons Zixidi.
Voilà, un petit extrait qui s'appelle « Les sons du quotidien ». Du quotidien de Zixidi.
Bravo.
Donc c'est un morceau, il utilise dedans un feutre, du verre, des carnets, une télévision, un coussin.
La chasse d'eau, non ?
La chasse d'eau, oui. Vous l'avez reconnu, oui, exactement.
C'est le best, c'est son best.
C'est l'un de ses instruments privilégiés. La laque, les ciseaux, un skateboard, une horloge, une trousse, un chat, une guitare, un clavier et j'en passe.
Ben, je dis encore bravo, c'est une référence. Bravo, Zig.
Alors, il y a un auteur dont j'aurais aimé parler, peut-être qui est vraiment à la base, c'est monsieur Stockhausen.
Ah oui, ouais. Stockhausen. Alors, bon, il y en a beaucoup que ça irrite, que ça énerve, mais Stockhausen, quand même, nous a aidé à affirmer encore plus loin ce que les précurseurs de la musique concrète ont lancé dans les années 40. Hein. Et donc Stockhausen, ce serait magnifique de faire découvrir Stockhausen à ceux qui ne le connaissent pas ou le redécouvrir à ceux qui le connaissent, qui, je pense, vont faire craquer les boutons pour accompagner ce beau morceau, je pense. Lequel ? Thank you.
Voilà, un court extrait de Cosmic Pulse, qui est un morceau qui a été fait par Karlheinz Stockhausen. Donc vous êtes toujours sur la radio FPP, vous écoutez l'émission La Rouscaille, 106.3. Aujourd'hui, nous sommes toujours avec Monsieur Pierre Michy. Pierre Michy, oui, une intervention peut-être ?
Je disais bonjour au néant.
Merci maître. Juste une petite présentation, ce morceau Cosmic Pulse, il a été réalisé en 2006, donc c'est assez récent.
Oui.
Vous connaissiez peut-être ?
Qui ne connaît pas Meurs Idiot, dirait beaucoup d'entre mes collègues et consorts. Oui, j'aime beaucoup ce que fait notre cher Stockhausen.
Ce morceau Cosmic Pulse, donc, il dure une heure, hein, on l'a coupé pour les besoins techniques, hein, de l'émission. Mais donc la première représentation, elle a été faite un an après, le 7 mai 2007, à l'auditorium Parco della Musica à Rome.
Mm-hmm. J'y étais.
Ah, vous y étiez ?
C'était magnifique. Assister à une naissance comme ça, non, c'était très très fort.
Alors, il y a des questions que je me pose parce que vous tournez pas mal en France, à l'étranger aussi, peut-être comme Karlheinz Stockhausen.
Je participe beaucoup à des tournées internationales. La France n'a pas l'amour de la musique concrète, malgré qu'elle soit née avec Pierre Schaeffer, que Pierre-Henri participe. On n'a pas beaucoup non plus de volets. On est obligé un peu de s'exporter.
Au Japon, par exemple, non ?
Le Japon, voilà. C'est une terre d'accueil très, 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 je vais dire, jouissive même d'être là-bas parce qu'on est entendu, on est compris.
Vous êtes compris. Parce que j'ai vu que les premiers développements en fait, de la musique concrète, ça apparaît très tôt, notamment avec les futuristes italiens au début du XXe siècle, avec un artiste, peintre et compositeur qui s'appelle Luigi Russolo. Voilà, ce mouvement des futuristes italiens, bon, à moitié fascisant quand même, il faut le rappeler.
Oui, c'est vrai que...
Il y a un passé quand même assez lourd de la musique bruitiste.
Disons que c'est plutôt l'époque qui a vrillé que la musique bruitiste. On va dire que je ne pense pas que ce soit intrinsèquement lié à la recherche de la musique bruitiste d'être fascisante.
D'accord. Ce sont des paroles qui sont assez...
Non, parce que justement, moi, si je le fais ça aujourd'hui, c'est parce que c'est pour libérer des concepts et libérer de ce qui est beau, de ce qui n'est pas beau, des valeurs et du côté manichéen qu'on peut avoir comme dans l'éducation artistique et de nos jours, quoi, même depuis tout le temps. La musique concrète vient s'absoudre, partir hors de là, hors territoire.
Mais c'est exactement ce que dénonce un petit peu... Je ne sais plus parce que je me perds dans mes notes, mais Edgar Varèse, il me semble, c'est justement une sorte de rapport différent au quotidien et pour faire un lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, notamment au Japon.
Oui.
Alors les Japonais donc, sont très impliqués dans ce type de musique.
Je dirais même que je suis assez fier, vous reveniez à mon nom, Michi, j'aime bien parce qu'au Japon, c'est un nom qui est le Japon, quoi, comme Michi. Voilà, on dit souvent Pierre le Japonais, quoi.
Ah ouais, oui, là-bas, ouais. Vous avez.
Ah, je suis une icône.
C'est un peu le Jacques Chirac ou le.
Je dirais pas jusque-là parce que Jacques a une culture différente de la mienne sur ce pays. Moi, je juste un amour
en
un amour
chinois, propre. Mais au Japon.
Ouais, voilà.
Donc, il y a des artistes très connus au Japon, hein, Yoshihide Otomo, mais aussi Anatarasha. Toshimaru Nakamura, Shigeru Kanno et Taku Tsujimoto, j'ai vu qu'ils...
Ouais.
Je connais malheureusement pas assez, mais...
Eh bien, je vous invite à vraiment les découvrir. Il faudrait... Il y a vraiment des grands artistes dans ceux que vous avez nommés. Et je pense qu'il faudrait d'autres pays comme le Japon pour que ça continue de se développer, vraiment.
Alors par rapport au son que tu me faisais écouter tout à l'heure, peut-être que tu nous feras une autre performance.
Volontiers, on pourra, si le temps nous est donné, je peux tout à fait même aller vers ce que je fais de plus en plus, qui est ce que j'appelle la performance acoustique du présent, c'est-à-dire je fais du slam du présent, slam du concret, c'est-à-dire que à travers les bruits, car je ne juge pas le bruit, je le fais et ce qui me fait, il me fait dire quelque chose et ce que je dis, je ne le juge pas, je le laisse faire. Et cet ensemble, peut-être des fois disharmonieux, non mélodique, mais ô combien puissant parce que je le laisse faire, c'est comme un cri qui part, on ne retient pas le cri. Mm-hmm. Sinon, on se fait très mal. On laisse faire.
Mais face à tout ce travail et au retentissement que ça a, je me demandais comment gères-tu ce succès phénoménal, en fait.
Le succès. Écoutez, c'est la première fois que j'entends ce mot succès. Je pense que justement, il y a chez nous une très grande humilité du fait qu'on sait que n'importe qui peut faire mieux que nous parce que tout est à disposition de chacun. Vous voyez ce que je veux dire ?
Je vois.
Donc c'est sans cesse se dire, ce que je fais, c'est justement rester humble et revenir à l'origine, à la source du son. C'est pas à moi qu'appartient le son se fait parce qu'il y a un concours de circonstances, il y a une chose, et que je provoque ça. Mais d'accord. En aucun cas, je suis au-dessus de la mêlée.
Comment appréhendes-tu ta relation au public ? Est-ce qu'il s'implique un petit peu comme certaines formes de
il m'est arrivé,
performances théâtrales où des fois le public réagit.
Exactement, je prends de plus en plus en compte le bruit, le public. Je fais souvent dans mes concerts, par exemple, sans qu'il le sache, j'enregistre tout du début à la fin, du passage de la sécurité au premier concert, aux premières extinction des voix, comme des fois la lumière arrive pour annoncer spectacle. Et il m'est arrivé même de laisser une heure le public sans rien. Le public était là pendant une heure à n'écouter qu'eux-mêmes et que les échos de ce qu'ils avaient fait deux secondes avant. Et je m'amusais juste à manipuler cet espace du vivant et leur dire, mais écoutez, nous sommes tous des artistes. Et d'ailleurs, j'avais intitulé cette performance « We are all artists, but not everyone, just all ». Voilà, c'était juste... et c'était assez frappant de voir les gens qui étaient d'une émotion. C'est là que j'ai rencontré la plus grande émotion de ma vie. C'était donc quand j'ai fait naître chez tous ces gens, ces inconnus, ces lambda, ces gens qui payent pour écouter de la musique, qu'ils étaient eux-mêmes musiciens.
C'est magnifique, cette relation avec le public.
J'en suis encore ému.
J'avais un petit son. Excusez-moi, je vois l'émotion qui te saisit. Il y a un petit son d'un artiste que j'aime bien. Je ne sais pas si on pourrait le passer. Ça s'écarte un petit peu de la musique brutiste, mais peut-être que ça t'a influencé, peut-être que tu connais. Je ne sais pas. Qu'est-ce que
je suis ouvert. Il faut bien que la musique ait existé pour que nous ayons émergé.
D'accord. Alors, c'est un morceau. C'est le morceau numéro 8. Numéro 8, qui s'appelle... les deux artistes qui l'ont fait, c'est Mr. Modo and Ugly McBear, qui sont accompagnés par Jessica Fitoussi. Et c'est un morceau qu'on va écouter tout de suite.
Modo night.